International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est la rentrée après la pause estivale. On vous avait quitté fin juin et on vous retrouve début septembre. Voilà, pour une nouvelle année d'émission bimensuelle d'information et d'action pour les droits humains. Nous, c'est qui? C'est qui nous, Edith? Je vais vous présenter après, vous inquiétez pas, mais c'est qui nous?
Nous, c'est Amnesty, groupe d'Évreux.
C'est ça, c'est le groupe d'Évreux d'Amnesty International. Bon, la plupart d'entre vous, j'imagine, à part ceux qui sont peut-être arrivés à Évreux cet été, nous connaissent déjà. Voilà, donc pour animer l'émission ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Mina.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise, on espère qu'elle va pouvoir...
Nous l'espérons.
...qu'elle va pouvoir nous rejoindre, mais elle était retardée à son travail. Voilà, donc une émission d'une heure, bimensuelle, sur les droits humains. Et ben, cet été, vous n'avez pas été sans remarquer que même en Normandie, on a eu droit à deux canicules. Une, si je ne me trompe pas, une fin juin et une autre fin juillet, avec des records de température. Je crois que la température, Edith, elle est montée, au Mila, elle est montée à plus de 40, je crois.
J'étais au Brésil, je ne sais pas.
Oui. Et ben moi, je n'étais pas tout à fait Évreux, bon. Mais il faisait très très chaud aussi dans le nord. C'était étonnant, quoi. Plus de 40.
Oui. Et donc à Évreux, je crois que fin juillet, c'est monté à 41 et quelque chose, enfin record absolu. Donc ça montre.
Non, dis pas absolu, dis record, étonnant. Mais absolu, je pense qu'il faudra qu'on s'habitue.
Oui, peut-être que ce sera pire par la suite. Il ne faut pas trop le souhaiter parce qu'à 40, 41 ou 42, on n'est quand même pas très bien. Voilà, ça montre bien qu'effectivement, ça va être un des sujets qu'on va aborder ce soir et on va le réaborder dans l'année qui vient de multiples occasions. Parce qu'Amnesty s'engage beaucoup sur le changement climatique. En termes d'intervention pour intervenir sur les droits humains qui sont bafoués à travers ces changements climatiques. Et on va développer un petit peu tout ça tout à l'heure, on va vous en dire un petit peu plus. Mais effectivement, ça montre bien que il faut absolument se mobiliser d'urgence par rapport à ça, parce que notre propre possibilité de continuer à vivre, disons, de façon à peu près harmonieuse, si on peut dire, sur la Terre pour l'humanité, n'est pas garantie dans les décennies qui viennent. Voilà. Je crois qu'Edith, elle avait quelques mots à vous dire aussi par rapport à ça.
Bien, tout à fait, parce que effectivement, Amnesty, changement climatique, vous allez dire, attendez, où est-ce qu'il s'y retrouve, Amnesty? Ben si, on s'y retrouve tout à fait par rapport au sort des gens. Et donc, il va y avoir plusieurs manifestations importantes. Bon, localement, on vous en parlera à la fin de l'émission. Mais ce qui va se passer le 18 et le 19 septembre, c'est à New York. C'est Amnesty qui va co-organiser avec le Haut Commissariat aux Nations Unies aux droits de l'homme, le sommet des peuples pour le climat, les droits et la survie de l'humanité. Donc tout est dit. Près de 150 militants d'ONG issus de différentes communautés seront présents, portés par un objectif commun, appeler les États à prendre enfin des mesures ambitieuses pour protéger les populations des conséquences du changement climatique. Nous, Amnesty, interpellerons ces États avant qu'ils se réunissent dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU le 23 septembre. Une réunion exceptionnelle portant sur le climat, justement. Alors, ce qu'on peut expliquer un peu la position d'Amnesty en 10 ans, Amnesty a intensifié son engagement auprès des défenseurs de la Terre et de l'environnement. Aujourd'hui, l'organisation répond présente face à l'urgence. Au moins 3 d'entre eux ont été assassinés chaque semaine en 2018. Des centaines d'autres ont fait l'objet d'attaques physiques ou en justice, de campagnes de dénigrement, de menaces de mort. Péruvienne, Patricia Gualinga travaille pour protéger l'Amazonie. Et Dieu sait si on en a entendu parler cet été. Malgré la peur et les persécutions, elle assure « Nous sommes unis et nous poursuivrons notre combat pour défendre Mère Nature ». Pour apporter notre contribution à ce combat, Amnesty mobilise ses militants, travaille avec d'autres ONG et coalitions. Notre défi, renforcer le mouvement citoyen international et faire entendre notre voix pour sauver l'humanité. Car seules les solutions qui placent les droits humains au centre des préoccupations seront efficaces. Elles demandent du courage politique et du leadership. Les États ne peuvent continuer, y compris la France, à prendre des décisions mettant nos droits, nos vies et celles des générations futures en danger. Alors à l'issue de ce sommet, les ONG travaillant sur les droits joindront leurs forces avec celles travaillant sur l'environnement pour émettre des recommandations qui donnent la priorité aux personnes et non à la cupidité des entreprises. Et le 20 septembre, une journée de mobilisation mondiale pour le climat exigeant haut et fort ce courage politique. Alors ça, c'est l'éditorial de la directrice d'Amnesty. Et je trouve qu'il résume bien la problématique du changement climatique et comment Amnesty a sa part très importante à avoir, et tout citoyen aussi, puisque c'est chacun, les organisations et nos politiques.
Oui, et donc je vais compléter ce que vient de vous dire Edith pour lister de façon très résumée pourquoi le changement climatique affecte les droits humains. Et c'est ce qui est effectivement le cheval de bataille d'Amnesty. Et donc nous avons décidé de travailler par rapport à ça. Et c'est un article que vous retrouverez facilement sur le site internet d'Amnesty, dont on vous rappelle l'adresse, hein, Amnesty, A-M-N-E-S-T-Y, pour les rares qui ne nous connaissent pas, .fr pour le site français. Donc amnesty.fr. Et vous avez énormément d'informations qui nous sont très utiles pour préparer les émissions, bien évidemment. Donc, le changement climatique affecte les droits humains sur ces différents points. Et encore une fois, c'est un résumé. Le droit à la vie. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais le changement climatique menace la sécurité de milliards de personnes sur cette planète. Les événements climatiques extrêmes, comme les tempêtes, les inondations et les feux de forêt, en sont l'exemple le plus frappant. Par ailleurs, selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le changement climatique devrait faire 250 000 morts par an entre 2030 et 2050 à cause du paludisme, de la malnutrition, de la diarrhée ou du stress thermique. Autre droit qui est bafoué par le changement climatique, le droit à la santé. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint. D'après le GIEC, le changement climatique aura pour principale conséquence sur la santé des risques accrus de blessures, de maladies et de morts en raison des vagues de chaleur et des feux de forêt, des risques croissants de dénutrition en raison de la diminution de la production alimentaire dans les régions pauvres, et des risques grandissants de maladies transmises par l'alimentation et l'eau et de maladies vectorielles. Le droit au logement. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, y compris à un logement convenable. Cependant, le changement climatique menace le droit au logement d'une multitude de manières. Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations et les feux de forêt détruisent déjà des logements et provoquent des déplacements de personnes. Le droit à l'eau et à l'assainissement. Toute personne a droit à l'eau pour son usage personnel et domestique et à l'assainissement permettant de rester en bonne santé. Pourtant, plusieurs facteurs tels que la fonte des neiges et des glaces, la diminution des précipitations, la hausse des températures et la montée du niveau des océans démontrent que le changement climatique affecte et continuera d'affecter les ressources d'eau, tant en termes de quantité que de qualité. Déjà plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et le changement climatique aggravera la situation. Amnesty continue en demandant à qui revient la responsabilité de la lutte contre le changement climatique ? Aux États, bien sûr. Les États ont l'obligation de limiter les effets néfastes du changement climatique en prenant des mesures aussi ambitieuses que possible pour empêcher et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le délai le plus court possible. Les États doivent prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique de la manière la plus rapide et humaine possible. Les mesures qu'ils mettent en place pour lutter contre le changement climatique ne doivent pas porter atteinte, de manière directe ou indirecte, aux droits humains. Et aussi, bien sûr, les entreprises. Les entreprises ont également la responsabilité de respecter les droits humains. Elles doivent évaluer les possibles conséquences de leurs activités pour les droits humains et mettre en place des mesures pour empêcher les conséquences néfastes. Elles doivent rendre publics les résultats de ces évaluations et les mesures qu'elles prennent. Les entreprises doivent également prendre des mesures pour remédier aux atteintes aux droits humains qu'elles causent et auxquelles elles contribuent, elles-mêmes ou en collaboration avec d'autres acteurs. Ces responsabilités concernent également les atteintes aux droits humains provoquées par le changement climatique. Les sociétés, et particulièrement les entreprises d'énergie fossile, doivent également mettre immédiatement en place des mesures pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre, notamment en se tournant vers des projets d'énergie renouvelable, et rendre publiques les informations pertinentes quant à leurs émissions et les mesures mises en œuvre pour les limiter. Ces mesures doivent s'appliquer à toutes les principales filiales, sociétés associées et entités de leur chaîne logistique. Les entreprises d'énergie fossile ont longtemps été et sont toujours parmi les principaux responsables du changement climatique. Les recherches montrent, et ça c'est important de l'avoir en tête, les recherches montrent que 100 entreprises de production de combustibles fossiles seulement sont responsables de 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988. De plus en plus d'éléments tendent à prouver que les principales entreprises d'énergie fossile sont depuis des dizaines d'années au fait des effets néfastes de la combustion de carburants fossiles et qu'elles ont essayé de dissimuler ces informations et d'empêcher des mesures destinées à lutter contre le changement climatique. Alors que faisons-nous et qu'allons-nous faire avec Amnesty ? Pour nous et pour d'autres organisations de défense des droits humains, il faut demander des comptes aux États qui ne font rien contre le changement climatique, comme nous le faisons avec ceux qui ne respectent pas les droits humains. Nous soutenons les jeunes, mais également les populations autochtones, les syndicats et les populations touchées, en demandant une transition rapide et juste vers une économie sans carbone et qui ne laisse personne de côté. Nous allons mener des procédures judiciaires pour maintenir la pression. Nous nous appuierons sur notre propre travail de soutien aux défenseurs de l'environnement pour faciliter le travail des personnes œuvrant à la protection des terres, des denrées alimentaires et des populations contre les conséquences du changement climatique, de l'extraction et du développement des combustibles fossiles et de la déforestation. La défense de l'espace civique lié à l'information, la participation et la mobilisation contribuera également à la promotion de politiques plus progressistes en matière de climat. Bon, s'ensuit une série de recommandations qu'Amnesty fait déjà envers les autorités et les entreprises dont on vient de parler. Encore une fois, je vous renvoie sur le site amnesty.fr pour en prendre connaissance et on aura l'occasion d'y revenir. Donc on va effectivement pas en dire plus pour l'instant sur ce qui se passe. Mais restez à l'écoute parce qu'on va en reparler des infos locales à la fin de l'émission, donc dans les dernières minutes de l'émission. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a Claire Lise qui est arrivée.
Et bonjour.
Voilà, et qui va donc pouvoir participer à l'émission avec nous.
On en est très contents.
Voilà. Oui, c'est prévu. C'est presque préparé.
Et c'est tout une belle. Bonne nouvelle. Et si vous voulez encore plein de bonnes nouvelles, le C'est grâce à vous de la chronique mensuelle d'Amnesty. Alors, le cobalt et Renault. Vous avez déjà entendu parler dans l'émission. Encore une
tout
bonne nouvelle.
Fait. Les voitures.
Renault change ses pratiques. En 2017, Amnesty International avait épinglé l'entreprise automobile française dans son rapport sur les conditions d'extraction du cobalt en République démocratique du Congo. Ce minerai est la matière première des batteries lithium-ion utilisées entre autres pour les voitures électriques. Il est souvent extrait puis trié par des mineurs, notamment des enfants, qui, malgré les risques potentiellement mortels, ne sont pas équipés de protection. Depuis notre interpellation, Renault s'est engagé dans une démarche de transparence, d'identification de tous ses fournisseurs et d'audit sur le terrain. Plus de 15 ont été conduits sur la chaîne d'approvisionnement en cobalt. Nous incitons les autres acteurs du secteur et toutes les entreprises utilisatrices de batteries de ce type à faire de même. Deuxième bonne nouvelle, c'est au Brésil, donc ça ne concerne pas l'Amazonie, ça concerne les LGBT. La Cour suprême du Brésil a décidé par 8 voix contre 3 le 13 juin de criminaliser l'homophobie. Cette mesure est importante pour les minorités sexuelles de l'un des pays qui compte le plus grand nombre d'assassinats de personnes LGBT. Le tribunal fédéral suprême a provisoirement décrété que l'homophobie était équivalente au délit de racisme. C'est maintenant au Congrès, à majorité conservatrice et sous forte influence des églises évangéliques, d'élaborer une loi spécifique pour réprimer ce type de discrimination. Et on aura tout à l'heure une petite parenthèse sur l'homophobie.
Oui, je pense que tu vas en parler voilà. Dans la rubrique culturelle.
C'est ça.
Mais dis-moi, Mina, si je peux t'interrompre, ce n'est pas le genre de décision qui doit plaire au président brésilien. Je pense que Bolsonaro ne doit pas voir ça d'un bon œil.
Pourtant, il a une ouverture d'esprit, cet homme.
C'est vrai. C'est
étonnante.
Vrai. Tout dépend où on place l'ouverture.
Détonnante.
Détonnante, oui. Tout dépend où on place l'ouverture aussi.
Oui, c'est ça.
Mais bon, c'est une avancée. En même temps, quand on voit qu'il y a des camps de concentration en Russie qui sont ouverts.
Oui, puis là, voilà. Il faut...
On peut dire que même si ça ne plaît pas à Bolsonaro, c'est déjà une bonne nouvelle.
Bien il faut qu'ils élaborent la loi. Donc, on va espérer que ça va aller jusqu'au bout. Quoi. Voilà, on va se surveiller.
Et je dirais même que si ça ne plaît pas à Bolsonaro, c'est une deuxième
c'est
bonne nouvelle.
C'est déjà une bonne nouvelle.
En soi.
Ça va nous intéresser, c'est sûr.
Et la dernière bonne nouvelle de l'émission... la CPI condamne Bosco Ntaganda. La Cour pénale internationale a condamné Bosco Ntaganda le 8 juillet pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les 2123 victimes, dont d'anciens enfants soldats et des victimes du groupe rebelle de Ntaganda, peuvent enfin entamer le processus de réparation pour les préjudices infligés par Bosco Ntaganda. Celui-ci a été reconnu coupable de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité, notamment d'enrôlement et conscription d'enfants soldats, de viol et d'esclavage sexuel. En 2002, Bosco était responsable des opérations militaires au sein de l'Union des Patriotes Congolais, groupe rebelle auquel appartenait également Thomas Lubanga, condamné en 2012 à 14 ans de prison.
Alors maintenant, c'est la devinette. Quel pays, ce monsieur ?
République démocratique du Congo.
Oh, oui. Bah facile, tu regardes.
Non, je n'ai pas regardé, moi.
J'ai dit patriote congolais.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai bien écouté.
Oui, oui, parce que oui, mais congolais, tu as deux pays, quoi. C'est mieux, c'est la RDC. Voilà.
Oui, c'est la RDC.
Et juste une petite précision pour ceux peut-être qui nous découvrent aujourd'hui avec la rentrée sur l'antenne de Principe Actif et qui peuvent peut-être s'étonner qu'Amnesty se classe dans les bonnes nouvelles le fait qu'un criminel soit arrêté et jugé, bah évidemment. Puisque comme de la même façon qu'on défend les gens dont les droits sont atteints et dont on réclame la libération quand ils sont injustement accusés, on se réjouit de la même façon et on poursuit les gens qui sont responsables de crimes et qui ne sont pas arrêtés et qui ne sont pas jugés. Donc quand c'est le cas, évidemment, qu'on s'en réjouit. Voilà, on va peut-être... oui,
faire une première pause musicale. Every
so loud.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission. Ouais. Et on vient d'entendre « I shall be released ». Excusez-moi, j'avais oublié d'arrêter le disque. Donc, retour de l'émission, effectivement, d'Amnesty. Je vais récupérer mes esprits, voilà. Retour sur l'antenne de l'émission d'Amnesty pour la suite. Et maintenant, je crois que c'est Mina qui a quelques infos à vous donner.
Oui, la rubrique culturelle engagée, vous l'attendiez, elle est revenue. Et elle fait sa rentrée. Alors, deux BD, deux bandes dessinées. Alors, une première, justement, sur deux adolescentes qui s'aiment bien. Donc, le thème, c'est l'homosexualité. Et je vais vous lire le résumé. C'est très léger, c'est pas très long comme bande dessinée. Elle est éditée chez Gallimard. Et c'est de Tilly Walden. Le titre, j'adore ce passage. Une histoire d'amour simple et bouleversante entre deux adolescentes d'une petite ville américaine. Donc c'est écrit par la jeune prodige Tilly Walden, autrice de Spining, prix Eisner en 2018 et Dans un rayon de soleil. À savoir qu'on voit bien la difficulté pour une adolescente ou un adolescent quand il découvre, il se rend compte qu'il aime les personnes du même sexe que lui ou elle. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de faire son coming out ou attendre et dire c'est pas le moment? Donc en soi, les dessins sont beaux et l'histoire est belle. Ça parle beaucoup des moments... aimer des moments agréables.
Tu le proposes pour quel public? Un public ado, un public adulte
À partir de 16-17.
Oui, j'ai l'impression, oui, par rapport au thème.
16-17.
D'accord.
Le deuxième, mon chouchou, sur la ségrégation. Une des actrices méconnues des combats aux États-Unis. Elle s'appelle Claudette Colvin. La BD s'appelle Noir, adaptée du roman de Tania de Montaigne et adaptée en bande dessinée par Émilie Plateau. Et on l'appelle l'oubliée des droits civiques, Claudette Colvin. Les figures emblématiques de la lutte pour l'abolition de la ségrégation aux États-Unis sont Martin Luther King, comme vous le savez, Malcolm X, Marcus Garvey, James Baldwin... Au milieu de tous ces hommes, on ne cite généralement qu'une femme. Laquelle, à votre avis?
Ben,
Rosa Parks. Bravo. Souvent présentée comme une couturière noire ayant refusé de céder son siège à un blanc dans un bus. On oublie qu'elle dédia sa vie au mouvement pour les droits civiques. Claudette Colvin, elle, n'est pas mal connue. Elle est méconnue, non reconnue à sa juste valeur. Elle est née en 1939 à Montgomery. Elle fut arrêtée à 15 ans pour le même acte de résistance que Rosa, 9 mois auparavant. C'est la force de la bande dessinée noire que de nous faire découvrir la vie de cette adolescente à qui l'on avait pourtant appris que l'ordre des choses, c'est les blancs en haut, les noirs en bas. Elle fut la première afro-américaine à plaider son non coupable et à poursuivre sa ville en justice. C'est aussi la force de cet album, au dessin délicat et épuré, que de montrer le rôle crucial des femmes dans l'évolution de la société américaine au XXe siècle. Dans l'Alabama des années 1950, elles ont organisé les boycotts, sont descendues dans la rue, se sont battues en justice. à travers l'histoire de Claudette Calvin, Noir leur rend un bel hommage. Donc Noir, la vie méconnue de Claudette Calvin, d'Émilie Plateau, d'Argot, édité chez d'Argot. Voilà.
Et ben, moi, je ne connaissais pas.
Eh oui.
Non, donc il faut vraiment lire cette BD pour lui retrouver une place dans l'histoire de la ségrégation.
Absolument. J'étais en train de me dire que j'allais vous la prêter.
La BD ?
Oui, bientôt.
C'est vrai ?
On a de la chance.
On va avoir droit à un cadeau ?
Non, un prêt.
Un prêt.
Un prêt, oui, mais enfin, c'est presque un cadeau.
Et après, vous, l'auditeur, vous allez l'acheter, quoi, parce que nous, on ne va pas la prêter à tous les auditeurs de Principe Actif.
Non. Alors, oui, pour finir sur cette rubrique culturelle engagée, dans cette fameuse chronique d'Amnesty International du mois de septembre, nous avons un dossier sur l'homophobie. Et on va parler d'une pièce de théâtre adaptée d'un roman qui s'appelle L'Archouma et le roman Un homo dans la cité. Brahim Naïd Balk est l'auteur d'Un homo dans la cité, le témoignage sidérant d'un jeune arabe qui se découvre homosexuel. Il raconte la honte, le harcèlement, l'ultra-violence entre jeunes de la cité, le tabou familial, l'isolement et la longue lutte qu'il a dû mener pour libérer sa parole et aller vers l'amour. J'ai plus souffert de la haine homophobe de mes congénères que du racisme anti-arabe, confie-t-il. Du livre est née une pièce, L'Archouma, la honte, adaptée par Yann Dacosta. Et de la pièce est né un projet pédagogique avec aux commandes le Musée national de l'histoire de l'immigration, Amnesty International et la compagnie Le Chafouin. Idée de proposer à des collégiens et lycéens d'aborder la question de l'homosexualité et les préjugés dans le monde, en s'appuyant sur cette pièce qui aborde l'homosexualité masculine, les cités et la religion musulmane. La première avait lieu dans le cadre du Le Grand Festival 2019 au Musée national de l'histoire de l'immigration. Juste après la représentation débute une discussion entre les élèves ou les spectateurs pour les représentations publiques, le metteur en scène, les acteurs ainsi que le spécialiste des questions LGBT à Amnesty. Sont d'abord proposées des affirmations élaborées minutieusement comme « Les gays ne savent pas jouer au foot » ou « La mère de Brahim est homophobe ». Les élèves se lèvent, s'ils sont d'accord, restent assis, si, pas d'accord. Ceci permet de déminer la pièce de toute stigmatisation, explique Yann Dacosta. On assiste à une joyeuse cacophonie de chaises car souvent les élèves changent d'avis selon les arguments proposés. Puis vient la collecte auprès des élèves des petits papiers mis à leur disposition sur lesquels ils ont écrit, de manière anonyme, les questions ou remarques que leur inspire la pièce. Chacun répond à son niveau. Les comédiens parlent de leur expérience, Amnesty sur les questions de droit et le metteur en scène sur son travail de sensibilisation dans les écoles. Les échanges sont si riches et vifs qu'il n'est pas rare que l'on déborde du temps imparti. L'Archouma met des mots sur les mots et permet aux élèves de poser leurs questions qui ne sont plus tabous une fois verbalisées. En décembre, de cette expérience naîtra un livret pédagogique à destination des éducateurs. Dans les infos utiles, il y a un module « L'homosexualité et les préjugés dans le monde » duré 2 heures. C'est initié par une collègue d'Amnesty International, Morgane Echès, et c'est soutenu par la Fondation Amnesty France, en partenariat avec le Musée national de l'histoire de l'immigration. Donc l'Archouma, ça dure 50 minutes. Et vous pouvez avoir les contacts sur amnesty.fr. Les prochaines dates, ça sera le 17 et 18 octobre à la scène nationale d'Evry, l'Agora, pour voir la pièce si vous avez envie.
C'est national d'Evry, pas d'Evreux.
Non, d'Evry.
Ben oui, oui.
Tu dis, elle parle pas la France. C'est bon. T'es à la problème, toi, hein? Hein?
Non, problème. Non, je précise, c'est pour éviter les confusions. Il y a des gens qui ont peut-être nous contacter en disant, mais on est resté pas programmé, votre pièce.
Non, c'est à Evry, à l'Agora. Et pour finir sur cette rubrique culturelle engagée, 3 questions qui ont été posées au metteur en scène qui me paraissent importantes de vous retranscrire, vous lire. Alors, la question qui lui a été posée, la première, quelle est la genèse de ce projet ? Morgane Echès d'Amnesty avait vu ma précédente pièce « Qui suis-je ?» à Avignon cet été. Les questions d'un élève de 3e, Vincent, qui va découvrir son homosexualité. avec tout ce que ça soulève d'interrogation et de peur. Je faisais déjà beaucoup de sensibilisation en milieu scolaire. En novembre dernier, elle m'a appelée pour me proposer de croiser les deux thématiques en partenariat avec le musée de l'immigration. J'étais justement en train de lire le livre de Brahim, Un homo dans la cité, qui répondait à ces problématiques que je sentais de plus en plus présentes. Homophobie et laïcité. Puis ça a été très vite. J'ai eu l'accord de Brahim, j'ai adapté la pièce, j'ai trouvé les comédiens et nous avons travaillé tous ensemble sur l'atelier discussion qui suit cette pièce. Et voilà, 4 mois après, le projet est sur scène. Mais nous continuons à travailler le module au fur et à mesure de nos interventions dès le collège et lycée. Pourquoi avoir choisi des acteurs homosexuels et d'origine maghrébine? Faut-il être homosexuel pour jouer un homosexuel? Pas du tout. Mais dans ce cas, c'était pour moi indispensable. Je voulais les intégrer au module pédagogique, qu'ils portent leur témoignage. La pièce est un récit, elle peut paraître comme une fiction. Or, pour que l'interactivité avec les élèves fonctionne, il faut savoir répondre à leurs questions, souvent très personnelles. C'est la seule façon de déminer les tabous. C'est pour cela que si quelqu'un demande « Êtes-vous gay ? Comment l'avez-vous su ? » Qu'ont dit vos parents, il faut pouvoir leur répondre avec vérité. Moi, je n'ai pas la vérité. Je veux crever les abcès. Comment réagissent les élèves ? Ils ont une très belle réaction. Il y a une énorme écoute, parfois une gêne, de la pudeur, toujours du respect, des rires et beaucoup de questions. Souvent très personnelles, comme je l'ai dit. Ils n'ont pas de filtre. Il faut savoir que pour la plupart, c'est la première fois qu'ils peuvent s'adresser en toute franchise à une personne homosexuelle. Au fur et à mesure, on voit les barrières tomber, une prise de conscience émerger. Ils comprennent que l'homophobie revêt toutes sortes de formes, de la plus directe et violente à la plus invisible, y compris de la part des gens que l'on aime et qui vous aiment, mais qui parfois maladroitement font des remarques homophobes sans même s'en rendre compte. Et voilà. Je voulais terminer sur une bonne rentrée à tous.
Eh bien, c'est ce qu'on souhaite, effectivement, une bonne rentrée à tout le monde. Et pour la rentrée, je crois qu'il y a Clairlys qui a quelques infos à vous donner.
Oui, bon, d'abord, je vous dis bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez pensé à dédier l'émission, parce que moi, j'aime bien de temps en temps dédier l'émission. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je crois que j'avais dû vous le dire quand même un petit peu à l'avance. Alors, je suis en train de perdre mon truc sur que je dois lire. Puis, il faut que je mette mes loupes de lecture parce que maintenant, je ne vois plus rien de près. Alors, aujourd'hui, je voulais dédier l'émission à Pia Klempt. Est-ce que vous vous rappelez qui c'est, Pia Klempt?
J'avoue que non.
C'est la jeune femme qui était à la tête du bateau, qui a été arrêtée avec évidemment des migrants à bord du bateau et qui avait été arrêtée par gouvernement italien. Donc, cette jeune femme, en fait, elle s'est manifestée à nouveau au mois d'août. Et je trouve d'une façon que moi j'aime bien. Il se trouve que Madame Hidalgo, maire de Paris, voulait lui remettre la médaille d'honneur de la ville de Paris.
Oui.
Et Pia Klempt a refusé cette médaille. Alors je vais vous lire pourquoi. Donc c'est paru dans The Mediterranean Sailor par Yanis Yolundatas, et donc voilà la réponse de Pia Klempt. Paris, I love you. I love you for all the free and solidarian people that... Alors attendez, parce que c'est pas tout à fait en français.
J'ai cru comprendre que tu voulais nous faire un cours d'anglais en même temps.
Moi, je pensais que tu allais faire la traduction simultanée. Bon,
alors, Paris, je t'aime. Je t'aime pour toutes les personnes libres et solidaires qui vivent en toi. Se battre pour leur liberté, tous les jours, debout à l'épaule, distribuant des couvertures, de l'amitié et de la solidarité. Donc c'est Pia Klempt qui parle. Je t'aime, Paris, pour ceux qui partagent leur maison, leur amour et leur lutte tous les jours, quelle que soit leur nationalité, peu importe s'ils ont des papiers ou pas. Madame Hidalgo, vous voulez me décerner une médaille ? Pour mon action solidaire dans la mer Méditerranée, parce que nos équipages travaillent pour secourir les migrants dans des conditions difficiles au quotidien. En même temps, votre police vole des couvertures aux personnes que vous forcez à vivre dans les rues pendant que les manifestations, les gens qui participent aux manifestations sont criminalisés. et alors qu'ils se tiennent debout pour les droits des migrants et des demandeurs d'asile. Vous voulez me donner une médaille pour des actions que vous combattez dans vos propres remparts ? Je suis sûre que vous ne serez pas surprise que je décline la médaille Grand Vermeil. Paris, je ne suis pas un humanitaire. Je ne suis pas là pour aider. Je suis avec vous en solidarité. Nous n'avons pas besoin de médailles. Nous n'avons pas besoin que les autorités décident de qui est un héros et de qui est illégal. En fait, ils ne sont pas en position de faire cet appel parce que nous sommes tous égaux. Ce dont nous avons besoin, c'est de la liberté et des droits. Il est temps qu'on appelle les hypocrites hypocrites et qu'on remplisse le vide avec la justice sociale. Il est temps de lancer toutes les médailles dans les fers de lance de la Révolution. Voilà, donc c'est Pia Collette qui a écrit ça, qui a répondu ça à Anne Hidalgo. Et moi, ça m'a mis en joie quand j'ai lu ça au mois d'août et j'avais envie de vous le faire partager.
Oui, c'est bien.
Voilà.
C'est bah, bien, très bien, hein. oui, tout voilà. à fait. Merci.
J'ai trouvé que c'était une réponse très adaptée parce qu'il y a parfois quand même beaucoup d'hypocrisie dans les discours politiques.
Non.
Bien pensant, tout ça.
C'est
et
vrai?
En fait, dans la mise en acte de la nouvelle loi sur l'asile, il y aurait beaucoup à dire. Et d'ailleurs, je ne vais peut-être pas tout dire aujourd'hui, mais je suis remontée.
Bon. Voilà. Bah, vas-y, on t'écoute.
Alors, je vous rappelle.
Et tu m'étonnes en disant que les politiques sont hypocrites. Bon. Franchement.
Bah, quand ça se passe en dehors de leur pays, ils trouvent ça bien. Mais quand c'est pour la France, c'est plus compliqué. Ouais. Hein.
Donc, je vous rappelle que sur le site d'Amnesty, et ce encore jusqu'à la fin du mois d'octobre, il y a une pétition à signer qui est Protégeons les défenseurs des droits des migrants. Donc cette pétition, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je vous invite à continuer à la signer parce que c'est important. Donc Monsieur le Président de la République, en France comme en Europe, on constate ces dernières années une criminalisation des actions des défenseurs et associations qui œuvrent chaque jour pour promouvoir et défendre des droits des personnes exilées, migrants ou réfugiés. Entraves administratives, poursuites en diffamation, intimidation, harcèlement, inculpation pour délit de solidarité. Ces personnes protègent des vies et font vivre concrètement notre principe de fraternité et agissent dans le respect du droit international. Il est temps que la France le reconnaisse et applique ce droit. Nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, de mettre un terme définitif au délit de solidarité en modifiant le droit français pour le rendre conforme au protocole de Palerme qui exclut toute poursuite ou sanction à l'encontre des personnes qui apportent une aide désintéressée, sans contrepartie matérielle ou financière aux personnes exilées. De mettre fin à toutes les entraves au travail des défenseurs et associations présents à Calais et d'œuvrer pour que toutes les allégations de violence ou d'abus, y compris de la part des forces de l'ordre, fassent l'objet d'enquêtes et pour que, le cas échéant, leurs auteurs soient traduits en justice. De reconnaître publiquement l'importance du rôle des associations qui travaillent en Méditerranée, à la frontière franco-italienne ou encore à Calais pour sauver des vies et protéger les droits humains. Alors on parle de Calais, mais ça pourrait être Ouistreham, ça pourrait être Caen, il n'y a pas longtemps. C'est beaucoup, beaucoup de villes qui sont mine de rien, ça ne passe pas toujours à la télévision. Mais les camps, les squats, les endroits où les migrants essayent de s'installer sont systématiquement détruits par la police. Et il y a des actes quand même où quand on prive les gens d'eau, quand on prive les gens de couverture, quand on prive les gens d'endroits pour pouvoir se poser, qui sont pas conformes aux droits humains.
Non, et qui ne sont surtout pas conformes au droit international qu'a signé la France.
Voilà. Et puis, il y a des journalistes qui continuent à être poursuivis en France par rapport à leurs actions pour solidaires. Il y a des associations qui continuent à être ennuyées aussi pour leurs actions solidaires. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place qui nous révoltent. Des organismes qui dépendent de l'État, mais qui normalement devraient être indépendants, qui jouent le jeu de l'État. Et qui jouent le jeu de l'État, par exemple, à Évreux. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon, il y a des migrants qui sont logés dans des foyers UDA qui sont gérés par ISOS. Normalement, les personnes qui sont accueillies dans ces foyers ont une domiciliation postale. Domiciliation postale pour les demandeurs d'asile, c'est à France Terre d'Asile.
pour les gens qui sont sans domicile fixe, c'est accueil-service. Donc, ils ont une domiciliation postale. Si la préfecture doit leur écrire un courrier recommandé ou quelque chose, on peut leur adresser un courrier à leur adresse de domiciliation postale. Et bien maintenant, on se sert des gens qui travaillent pour ISOS, qui servent de facteurs pour venir apporter des lettres demandant aux gens de se présenter à la préfecture à 14h tel mercredi avec leur passeport, et c'est en vue de leur remettre une obligation à quitter le territoire français. Il y a des dérives comme ça qui sont bonnes à dénoncer parce que quand même, c'est pas normal ce qui se passe.
Oui. Voilà. Bah oui.
Et comme c'est pas normal, eh ben on va revenir au taquet avec les associations locales. Et donc, on va se réunir bientôt. Donc, ça comprend la CIMAD de Vernon, la pastorale des migrants, ça comprend l'ADEME de Vernon, ça comprend le réseau d'éducation sans frontières du département 27, ça comprend le CEFED Asti d'Evreux, ça comprend la Ligue des droits de l'homme, ça comprend l'ANDA de Pont-Audemer. Enfin, toutes les associations, on en avait ciblé neuf.
Les Restos du Cœur aussi.
Les Restos du Cœur et Amnesty International. Donc, toutes sont invitées à se réunir pour faire le point sur toutes ces dérives et puis pour redemander une audience auprès du préfet. Donc, c'est en cours. On vous en dira un petit peu plus quand on aura retravaillé et qu'on aura eu cette audience. Mais on ne peut pas laisser passer ce qui se passe. Enfin, ce qui est en train de se mettre en place, c'est pas possible. Donc, mais il faut le dénoncer et le dénoncer avec vigueur.
Tout à fait. Encore une fois, les migrants et les réfugiés ont des droits fondamentaux comme tout le monde, et que ça se passe chez nous et que ces droits-là, chez nous, sont de plus en plus mal respectés, voire ouvertement bafoués. Voilà. Donc, on est d'accord avec toi, Claire-Lise, et oui, on continuera.
Aller voir le préfet, voilà, et le chef de cabinet. Et...
Voilà, on l'a déjà vu deux fois l'année dernière, on va prendre un abonnement. Ça nous fera... Voilà. Bon, en espérant qu'il en ressorte quelque chose de positif, mais bon. Qu'on parlait d'hypocrisie des politiques tout à l'heure, je n'en dirai pas plus.
Ce qui est important, c'est qu'on peut le relayer à la radio, dans la presse, parce que c'est ça qui les gêne le plus, c'est que ça soit relayé au niveau médiatique. Donc, voilà.
On va faire notre deuxième pause musicale et on se retrouve juste après. De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, c'était un groupe local qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, qui s'appelle le groupe Avière, qui était venu jouer en soutien pour des manifestations qu'on avait organisées.
Bon, on était voilà. Plus jeunes, hein.
Oui, donc ça remonte à quelques années, mais le morceau est toujours d'actualité. Ça s'appelait « Où va la culture ?». Et donc, on va vous passer une petite surprise. C'est tout de suite.
Attention.
Principe Actif, c'est actif par principe.
Voilà, c'était court, mais Principe Actif, c'est actif par principe.
Alors maintenant, Didier, il sait faire ça. Voilà. Vous en aurez pour
voilà, voilà. Je m'améliore au niveau...
Parce que Ronan, il ne faisait pas ça.
Voilà, je...
Ah bah non, hein.
Je m'améliore au niveau de la gestion des émissions. Non mais vous n'écoutez pas, c'était Edith qui se moquait un petit peu. De...
Bah, nous, on ne fait pas, là, voilà. On fait pas la technique. Alors c'est très très bien, c'est très très bien, Didier.
Voilà. Donc je crois qu'il y avait encore Edith qui voulait vous reparler aussi de violences policières, c'est ça?
Non,
justement.
Mais si, on
pas
voulait
ça.
Vous parler de ça, mais quand on voit le temps qui passe, ça sera pour une prochaine émission. Donc là, ce que je voulais, c'était par rapport à un petit point d'oc, par rapport à ce que Claire-Lise a expliqué sur la situation des migrants en France. Et Dieu sait si c'est très compliqué, et localement, et au niveau national. Et moi, j'ai trouvé un article sur La Chronique, vous savez, ce superbe journal. Vous pouvez vous abonner, La Chronique d'Amnesty. C'est le numéro de juillet-août, qui parle aussi aux États-Unis. Alors, notre ami Trump, vous le connaissez, mais je trouve que là, il y a beaucoup d'inquiétudes et aussi un tout petit peu d'espoir. Donc, j'avais envie de vous en parler. Donc, ça se passe au niveau du désert de Sonora, qui longe le nord du Mexique et le sud des États-Unis. Alors, c'est un désert très, très compliqué à traverser, avec vraiment qui met les migrants qui viennent du Mexique dans des conditions vraiment de difficultés, car il n'y a absolument pas d'eau. Et chaque année, ce désert est un immense cimetière. Depuis les années 90, plus de 6000 d'entre eux auraient perdu la vie, selon les autorités américaines. En fin de compte, le chiffre est sûrement beaucoup plus élevé, car beaucoup de corps n'ont jamais été retrouvés. Et avec le durcissement des politiques du gouvernement Trump, les migrants s'aventurent dans des zones de plus en plus isolées. Alors il y a l'exemple de José et de Christiane, originaires respectivement du Honduras et du Salvador, qui ont survécu à la traversée. Ils arrivent en Arizona en janvier 2018 et les deux hommes ont été accueillis par l'ONG No More Death, plus de morts, dans leur refuge situé à Ajo en Arizona. Pendant quelques heures, José et Christiane ont pu manger, boire, se reposer avant de continuer leur périple. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, la police des frontières est venue les arrêter, ainsi que Stock Varen, un géographe de 36 ans, très impliqué dans l'organisation. Et aujourd'hui, ce dernier est poursuivi par les autorités américaines pour complot visant à transporter et à héberger des migrants. S'il est condamné, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Pendant des années, les groupes humanitaires et les habitants de la région ont cohabité, en quelque sorte, avec les gardes frontières, explique Warren au Washington Post. Aujourd'hui, les autorités s'emploient à lutter contre l'aide humanitaire. Et quelques heures avant l'arrestation de Warren, No More Death a publié un rapport sur la destruction du matériel humanitaire par les autorités, ainsi qu'une vidéo où l'on voit les agents de la police des frontières, certains hilars, renverser d'un coup de pied les bidons d'eau déposés dans le désert par les bénévoles. Pour Scott Varen, son procès s'inscrit dans la droite ligne des politiques cruelles de l'administration Trump. Pour que la stratégie fonctionne, la bienveillance doit aussi être éradiquée, explique-t-il. Alors début juin, les jurys ont délibéré pendant 3 jours sans se mettre d'accord sur le verdict. Et le juge fédéral a donc officiellement annulé le procès, relaxant de fait le bénévole. Maintenant, les procureurs fédéraux devront décider s'ils intentent un nouveau procès à Stock Varen avec un nouveau jury. Alors, ce que peut dire la directrice du programme Amnesty Amérique, l'annulation du procès adresse un message clair. Il y a des citoyens aux États-Unis qui refusent de se soumettre à la volonté du gouvernement de criminaliser la compassion et l'aide humanitaire. Ça se passe aux États-Unis. Je pense qu'on pourrait avoir aussi des exemples voilà, en France, de gens qui aident des migrants. Mais là, il y a un petit espoir par rapport à la politique de Trump. J'avais envie de partager avec vous.
Oui. Bah, c'est donc qu'il y a de plus en plus de citoyens qui essayent de s'opposer à ce...
À ce durcissement de politique, à cette politique. J'aime bien la politique cruelle. Voilà, c'est vraiment ça. La bienveillance doit être éradiquée.
Oui, on va te laisser la parole, Didier, pour tout ce qui est local.
Oui, mais en plus, on m'a squeezé le papier sur lequel c'était marqué, donc je ne sais plus où il est là. Non, le papier. Non, il n'est pas là. Non,
attends.
Il n'est pas là.
Oui, il était...
Ben, je ne sais pas.
Mais je ne sais pas quel est le papier que Didier souhaite.
C'est toi qui dois l'avoir. Oui, hein. Effectivement, mais tu en as tellement que tu as tout mélangé.
Non mais c'est vrai que là, si. Je pense que dans les prochaines...
C'était Claire-Lise
l'a caché. Oh là là là.
Vous savez tout.
Comment
vous savez tout sur les niches qu'on se fait
pendant
l'émission.
Non, mais dans les prochaines émissions, je pense qu'il y a de quoi parler par rapport à l'homophobie. Parce qu'il y a vraiment des... On a des dossiers en plus sur les chroniques qui sont très très intéressants par rapport aussi aux droits des migrants et dans l'actualité locale, Didier.
Oui, bien sûr. Et de toute façon, on aura... mais comme tu disais, Claire-Lise, c'est pas très différent entre les États-Unis et la France. Hein, la situation non. Par rapport aux populations migrantes, c'est clair. Et pas seulement...
entre l'Europe et l'Afrique, de toute façon, parce que la situation des migrants qui arrivent en France... C'est aussi la situation des migrants qui arrivent en Europe, dans tous les pays d'Europe où ils sont refoulés en Méditerranée. Et c'est scandaleux. Enfin, ce qui se passe, c'est scandaleux. Et c'est aussi scandaleux que ce qui se passe aux États-Unis
à la frontière mexicaine.
À la frontière mexicaine. Il y a des morts partout.
Le mur européen, c'est la Méditerranée.
Tout à fait.
Et on oublie, on ne parle pas de ce qui se passe autour de l'Australie, de ce qui se passe dans l'océan Indien pour ceux qui essayent de passer à Mayotte et compagnie. Enfin, voilà, il y a vraiment des situations dramatiques dans beaucoup, beaucoup de coins du monde.
Il y a énormément de gouvernements qui veulent effectivement, entre guillemets, fermer les frontières et réguler les migrations, en oubliant que dans l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais régulé les migrations. C'est une vue de l'esprit et ça finit toujours par des drames quand on veut faire ça. Donc, on n'y échappe pas.
Et si on reprend le début de notre émission, les migrations climatiques, c'est aujourd'hui et demain.
Oui, plusieurs milliards de personnes, s'il ne se passe rien, plusieurs milliards de personnes, 1 milliard et quelques, je crois, c'était marqué sur le dossier d'Amnesty, je n'ai plus le chiffre exactement, mais 1 milliard et quelques d'habitants seraient susceptibles de migrer pour des raisons climatiques d'ici la fin du siècle. 1 milliard et quelques, voilà.
C'est déjà commencé,
tout à fait. Bon, alors donc, Claire-Lise parlait d'infos locales tout à l'heure. Donc, effectivement, on va terminer l'émission par rapport à quelques infos locales. Donc, comme on vous parlait au début de l'émission de changement climatique et droits humains, donc là, il y a des grandes manifestations. Alors, ça commence quand, Edith ?
Alors, déjà...
Du 14 au 29, c'est ça ?
Voilà,
du
14 au 29 septembre. C'est la fête des possibles, organisée par Alternativa CTCE et avec plein d'autres... organisation sur tout le département. Donc, allez voir sur le site Alternativa CTCE Évreux. Il y a des manifestations à Val-de-Reuil, à Évreux, à Vernon, à Giverny. Cette année, c'est pour montrer aussi que dans beaucoup de villes, grandes, petites, les citoyens se mobilisent et attendent à partager avec chacun ce que l'on peut faire. Donc il y a des films et je crois qu'on sera aussi présent.
Voilà, tout à fait. Et juste pour information, le programme aussi présenté par Alternativa là, sur les activités du 14 au 29, on peut aussi le retrouver chez Biocop. Il est à disposition chez Biocop.
Voilà, il va être dans plein d'endroits, c'est parce que...
Publicité gratuite. dans le cadre de cette fête des possibles, le jeudi 26, on est invité, c'est pas nous qui programmons, mais on est invité à co-animer le débat, le film Grande Sainte, qui est un film sur des îles. Grande Sainte, c'est une ville du nord de la France.
C'est Calais, à côté de Calais.
C'est à côté de Calais, et c'est les initiatives de la municipalité, qui est une municipalité très, très branchée écologie, si on peut dire.
Et droits de l'homme.
Et droits de l'homme par rapport à ce qui se passe. Donc, Alternativa nous a invités à co-animer le débat qui suivra la projection du film.
Voilà, c'est en train de se construire, mais sans doute...
Ce sera le jeudi 26. La projection est à 19h30 au Cinéma Pathé à Évreux. Et donc, le débat suivra la projection. Donc, on espère vous y retrouver, parce que ça nous fait très plaisir qu'on nous invite à ce genre d'initiative, et qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait en début d'émission. Et puis, on vous rappelle aussi les manifestations, enfin les marches pour le climat du jeudi 20.
Septembre, voilà, je vous en ai parlé.
Du jeudi 20, on en a parlé aussi au début, c'est important de se mobiliser. Alors, il y en a une à Paris, qui sera suivi bien évidemment par beaucoup de gens. Mais d'après ce que j'ai vu cet après-midi sur, sur les sites d'information, il y en a une autre qui est prévue à Pont-de-l'Arche et une autre qui est prévue à Rouen. Donc je pense que les habitants de, d'Evreux, c'est peut-être, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent aller à Paris, il n'y a pas
après,
de souci.
Après, il y a peut-être Evreux, on ne sait jamais.
Bah, Evreux, pour l'instant, n'y figure
mais
pas.
Pourquoi pas ?
Pour l'instant, Evreux n'y figure pas. Moi, j'y ai pensé aussi, mais je ne sais pas qui pourrait lancer ce genre d'initiative. Faudra voir
bah, c'est avec... plus un mouvement jeune, ouais. Effectivement.
Il faudrait peut-être voir avec Alternativa, je ne sais pas.
Hein. Avec les antennes jeunes aussi, peut-être. Avec jeunes, voilà.
Pourquoi pas ?
L'IUT, la fac, voilà, c'est les... Les premiers intéressés.
Pourquoi pas ? Pour l'instant, il n'y a pas de mot d'ordre dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a Pont-de-l'Arche à Rouen. Donc, si vous voulez participer localement à ces marches pour le climat, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez envie d'être parisien ce jour-là, eh bien, rejoignez aussi la marche à Paris. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'était les actualités locales. Et puis, ben, on vous dit que notre prochaine émission, c'est le mardi. Mardi, combien ? Le mardi 24
septembre.
Septembre. À 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Est-ce que quelqu'un a encore une petite info ? Il nous reste
oui, moi
une minute d'émission.
J'ai vu rapidement pour ceux qui vont sur les chaînes YouTube. Il y a la chaîne YouTube Amnesty. Il y a des petits tutos qui sont sortis cet été sur très rapide sur qu'est-ce qu'on peut faire, sur comment est-ce qu'on peut présenter Amnesty. Ça, j'en ai regardé un. Hein, j'ai pas regardé les deux autres, mais allez voir. Ça dure 3 minutes et ça m'a l'air assez sympa pour en parler autour de vous en plus. Voilà.
Donc on va quand même redonner quelques... Encore une fois, il nous reste un tout petit peu de temps. On va redonner quelques adresses. Donc pour toutes les infos sur les droits humains et Amnesty, www.amnesty.fr. Et puis aussi, si vous avez envie de contacter le groupe d'Evreux hein, par rapport à ce qu'on fait, n'hésitez pas.
Contactez-nous,
avec
on
plaisir.
Sera content.
Donc on vous donne notre adresse mail, c'est amnesty avec de la même façon, amnesty.evreux@gmail.com. amnesty.evreux@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter pour nous demander des renseignements ou vous dire que vous êtes intéressé par ce qu'on fait. Si vous avez envie aussi de vous intéresser à nos activités et y participer,
rejoignez-nous.
Il n'y a aucun problème.
C'est la rentrée. Alors, on vous explique, on n'est jamais au forum des associations, mais vous pouvez très bien nous mettre pour vos activités de l'année.
Voilà.
N'hésitez pas.
Il y a une raison pour laquelle on n'est pas au forum des associations. C'est que la ville d'Evreux nous avait signalé qu'il ne souhaitait pas avoir des associations militantes dans ce forum.
Voilà, mais voilà. C'est dommage parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent des questions. Comment est-ce que je peux m'investir ? Donc, rejoignez-nous.
Voilà. Eh bien, donc rendez-vous sinon à la radio le mardi 20...
Dans 15 jours.
4, dans 15 jours, 19h, en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et il y a tous les podcasts d'ici là aussi sur le site de Principe Actif, principeactif.net. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. J'ai oublié de dire au revoir.
Oh, au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.